Là, on est sur le lac Indoji, donc c'est le plus grand lac naturel du nord de la Birmanie. Et là, on est le matin, à l'aube. Ce qu'on entend, c'est des nuées de perruches qui viennent des forêts avoisinantes, des collines, qui passent au-dessus du lac et qui vont venir s'alimenter de mangues et d'autres fruits dans les villages autour du lac. Moi, je suis sur les bords du lac, à quelques encablures en fait, de la fin du village. Et juste avant les premières collines où il y a de la forêt, ce qui permet du coup d'avoir au premier plan des oiseaux aquatiques et puis le réveil un petit peu des passereaux dans l'espace arboré autour. Et puis derrière, il y a le village qui commence avec donc les premiers mangliers et donc les nuées d'oiseaux vont passer au-dessus des micros. Je m'appelle Rodolphe Alexis, je suis artiste sonore et là je reviens d'un travail de recherche de 2 mois en Asie où j'ai enregistré la forêt à Sumatra, au Laos et en Birmanie. Quand j'étais enfant, j'étais souvent chez ma grand-mère à la campagne, alors que j'étais plutôt un citadin, mais tous les week-ends, je m'en trouvais un petit peu perdu entre une maison de campagne et puis des espaces boisés, arborés et une petite rivière. Et je me rappelle que j'ai commencé vraiment à écouter beaucoup. C'était dans la campagne poitevine et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux oiseaux, aux animaux qui peuplaient. Je fais des élevages de grenouilles, de batraciens, enfin tout ce que font les enfants à la campagne. Mais j'ai commencé à avoir ce rapport au son par l'ornithologie. Quand j'avais 9-10 ans, je suis parti pour des vacances en Guadeloupe et j'ai découvert ce que c'était que la forêt tropicale. Et ça a été un choc, ça a vraiment été un choc de voir une telle diversité de couleurs, de formes, de parfums. Ça m'est resté hyper présent et c'est vrai que là où je me sens vraiment très bien, où c'est vraiment mon domaine de prédilection, enfin où j'aime vraiment aller, c'est dans toute la bande tropicale et dans les forêts. Ça a été quelque chose qui était fondateur en fait, ce rapport de... Le promeneur écoutant, c'est vraiment ça. J'essaie d'être le plus statique, le plus invisible possible. Et j'ai une écoute distanciée de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai choisi mon plan, où j'ai choisi de me positionner, je me déréalise par rapport au moment qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de preneurs de son naturalistes qui travaillent avec des pièges à son, qui laissent des enregistreurs dans des passages d'animaux, puis qui les récupèrent le lendemain. Ou il y a aussi le mode reportage, où là on est en écoute mobile avec un couple, avec une perche. Ça, c'est des choses que je fais assez peu. Pour des ambiances stéréo, parce que c'était une ambiance stéréo, l'idée c'est vraiment de poser l'enregistreur sur un trépied, comme ça il n'y a aucun bruit de manipulation, et puis de rester dans ce rapport un petit peu distancié et de construction dans le moment, en temps réel. Alors là, ce qu'on entendait, c'était donc les vocalises d'une famille de gibbons agiles sur l'île de Sumatra, Sumatra Ouest. C'est un groupe de singes qui fait partie de la famille des singes anthropomorphes, en fait, qu'on va trouver en Asie. Il y a une vingtaine d'espèces, un petit peu moins d'une vingtaine d'espèces. Bon, il y a 3 voix, en fait. Il y a les 2 adultes, et puis il y a donc l'enfant qui essaye d'imiter les chants de leurs parents, de ses parents. On est vraiment à cheval entre le documentaire et puis le musical. Ça ressemble un peu à des sonorités de thérémine. Voilà, c'est ça qui me motive aussi, c'est d'avoir cette richesse de timbre, de structure, de texture musicale, et de pouvoir avoir un contexte que je peux évidemment expliciter et donner une partie de mes enregistrements à des scientifiques pour investigation. Et en même temps, moi, je vais en tirer le côté le plus musical, riche en timbre, hauteur. Pour la captation vraiment naturaliste, c'est de la phonographie. J'aime bien cette analogie entre la photographie et la phonographie, parce qu'il y a un peu les mêmes choses qui sont engagées. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au corps, évidemment, engagé dans le territoire, et puis il y a ce rapport de qu'est-ce que j'ai comme action, quelle est ma subjectivité, qu'est-ce que je choisis comme outil, quel est le cadre, quels sont les plans que je travaille, quelle est l'image visuelle pour la photo, mais l'image sonore qu'on va construire. Ça, c'est des choses qui nous engagent complètement. Donc il y a ces subjectivités-là. Et l'analogie est assez parlante, je pense. Je pense qu'on ne peut pas s'abstraire de tout ça. On est vraiment dans une approche qui est complètement singulière et qui fait partie de la construction du paysage, qui est avant tout culturel, social, historique, géographique. Ce qui me motive d'abord, c'est l'expérience sensible du territoire, aller sur le terrain, avoir un rapport presque sensuel avec ce territoire, c'est-à-dire c'est un engagement du corps dans la mare, dans la découverte du territoire, dont évidemment tous les sens sont en éveil, la vue, l'odorat, le toucher, je touche les arbres, je touche les feuilles quand je suis en forêt comme ça, il y a vraiment cette expérience qui motive tout ça, c'est vraiment d'avoir cette présence au monde, et dans cette présence au monde, il y a ma sensibilité musicale qui est inclue. Nietzsche parlait de la musique, il parlait de la musique comme un art de la nuit et de la pénombre, parce qu'en fait c'est notre rapport à l'oreille, l'organe de la peur. L'oreille, c'est avant tout ce qui nous avertit du danger, de ce que l'on ne peut pas voir, ce qui ne fait pas face à nous, donc qui est derrière nous. C'est pour cela que le son a cette dimension dionysiaque et mystérieuse, et qui nous renvoie vers des choses plus oniriques. Je ne vis pas de cette prise de son naturaliste, c'est extrêmement difficile d'en vivre. En France, il y a peut-être 2 personnes qui en vivent, et encore, ça devient, je pense, de plus en plus difficile. L'idée, c'est de trouver des biais pour financer des projets, soit de s'associer avec des expéditions scientifiques, des labos de recherche, ou des bourses de financement artistique. Si l'écoute peut emmener les gens vers quelque chose qui les séduit, c'est ça de gagner quelque part dans un rapport de sensibilisation à la conservation. C'est pas du militantisme direct, frontal, et ça passe pas par un rabâchage moral. C'est vraiment quelque chose qui doit passer par la séduction. Là, c'est carrément musical. On est donc en forêt tropicale du Laos, à la province de Bokeo, à la frontière assez proche de la Thaïlande et de la Birmanie. Et là, c'est très surprenant parce que j'avais déjà entendu cette cigale-là, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. C'était très loin, c'était en Thaïlande. Et là, je me suis retrouvé vraiment à quelques mètres et c'est extrêmement puissant. Et surtout, la particularité, c'est que pendant toute la journée, il y a des espèces de cigales qui vont chanter, qui vont se répéter. Et puis, il y a un petit moment où c'est le crépuscule, les premières s'arrêtent. Et puis, il y a 5-7 minutes de vide, de silence. Et celle-ci part d'un seul coup. Et elle, on va pas l'entendre pendant la journée, on l'entend vraiment à ce moment du crépuscule. Et ce qui est très surprenant avec ces cigales, c'est que donc, du coup, c'est vraiment très très fort. Il y a vraiment une variation d'intensité entre le moment où elle explose, comme ça, on dirait vraiment une espèce de roquette qui arrive dans la forêt. Celle-ci, je me suis aperçu qu'elle va chanter pendant une demi-heure et après elle va s'arrêter pendant une demi-heure, une heure, pour qu'une autre puisse chanter à quelques centaines de mètres. Là, on retourne sur les abords du lac Indoji, là, plutôt espace forestier en bordure de lac. Et là, on est en présence de deux petites rainettes qui communiquent, qui font des espèces de craquements comme ça. Alors, il m'arrive de publier des disques ou des formes radiophoniques, en tout cas de la forme fixée de ces enregistrements-là. C'est vrai que ça pose la question de savoir comment tu finis la forme. Et est-ce que tu construis, comme je disais tout à l'heure, une dramaturgie ou est-ce qu'on fait un plan séquence? Quelle phonographie on va pouvoir tirer d'un enregistrement de 20 minutes si on doit tirer par exemple 5 ou 7 minutes? Moi j'ai des critères esthétiques qui me correspondent, qui vont être certaines valeurs de plan entre le premier locuteur et les lointains, entre une certaine dynamique qui va s'instaurer, est-ce que ça va moduler avec un climax au milieu et puis ça redescend. C'est vraiment des choses structurelles qui vont se dégager de l'enregistrement brut. C'est un peu compliqué de parler de paysage sonore, ça englobe beaucoup de choses, des considérations culturelles, historiques ou géographiques. Cette idée d'avoir un orchestre organisé dans un chorus de l'aube ou au crépuscule avec chaque animal qui a sa place, son rythme, sa fréquence, est quelque chose qui est du domaine de l'évidence en ce moment. C'est, je pense, peut-être une source sensible, une des premières inspirations des premières musiques. Chacun a sa place spatiale, sa place rythmique et sa place fréquentielle. Et de l'action du preneur de son, en tout cas, on est plus auditeur que chef d'orchestre, même si on va choisir son point d'écoute. Et donc son point de prise de son va justement se déplacer plutôt vers la contrebasse que vers les premiers violons. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur cette prise, je vais avoir un travail d'approche qui va durer une heure. Et je vais garder que cette prise-là parce qu'il n'y a que celle-ci qui m'intéresse. C'est encore une fois, c'est ce rapport d'utiliser les micros comme des pinceaux, comme si je décidais c'est une interprétation de ce que j'entends. C'est être sur un territoire naturel et avoir ce rapport sensible, se sentir présent dans ce territoire, se sentir inclus dedans. Vivant parmi les vivants.